vous avez les questions, il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Et Philippe Munier, comme chaque dimanche, fin prêt pour répondre au marathon de toutes ces questions. Bonjour Philippe.
Bonjour Daniel, bonjour à tous.
Comment va le jardinier en ce dimanche matin ?
Eh bien écoutez, le jardinier, il a eu chaud. Hein, ouais, il a eu chaud, sûr. Mais le jardin aussi. Et ouais. Le jardin aussi. Alors, moi, je voudrais faire avant d'avoir tout un tas de questions, dont certaines, je pense, vont tourner autour de la chaleur, de la canicule, des effets indésirables. Je voudrais quand même rappeler une chose, c'est qu'une plante qui aborde la canicule en parfaite santé, parce qu'elle est dans une bonne terre, qu'elle a été bien paillée, bien protégée, qu'on l'a bichonné sa terre, cette plante-là, elle va supporter la canicule beaucoup mieux qu'une plante qui va arriver malade avec un sol desséché, détrempé, croûté déjà. Et donc, effectivement, l'épisode caniculaire sera beaucoup plus dur pour elle. Donc, faites bien attention. Il y aura peut-être d'autres dans le courant de l'été, des épisodes caniculaires. Donc, faites attention. Vous passez un bon coup de binette. Ça ne fait pas de mal au jardinier et ça fait du bien à la terre. Et puis, une fois que vous avez fini le coup de binette, mettez un bon coup de paillage et vous verrez que vos plantes supporteront beaucoup mieux l'été et il y aura beaucoup moins de dégâts au jardin.
Voilà donc le conseil avisé de Philippe Munier et bien sûr tout de suite on va découvrir vos questions.
Vous avez les questions ? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Et direction Plérin près de Saint-Brieuc avec Yvon, bonjour.
Oui, bonjour Daniel, bonjour Philippe. Oui, je vous appelle à propos d'un pommier, un bel de Boscop qui a à peu près une vingtaine d'années. Donc il avait plusieurs fruits et les fruits qui commencent à grossir sont recouverts de petits points blancs. Et ça, on dirait comme des vers, quelque chose qui est rentré à l'intérieur. Alors, je voulais savoir s'il y avait quelque chose à faire. J'avais mis au mois de mars, avril, des collantes, quoi, pour éviter les mouches. Mais bon, apparemment, ça n'a pas marché. Alors, c'est peut-être autre chose.
Alors. Oui, ça doit être autre chose, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de mouches dans le pommier. Il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas beaucoup. On est plus embêté par le carpocap, ce qui est un papillon.
Oui, ben, je pense à ça.
Voilà. Mais là, des petits points blancs sur les pommes, ça me tarabuste un petit peu, votre histoire-là. Ils ressemblent à quoi, ces petits points blancs?
À les voir comme ça, on imaginerait des gouttes d'eau et des gouttelettes comme ça. C'est transparent. Et les pommes sont recouvertes de ces espèces de gouttelettes. Alors, j'ai enlevé pour voir s'il y avait une bête dedans. Non, et par contre, quand on l'enlève, il y a comme un petit trou dans la pomme.
Alors, difficile de faire peut-être un diagnostic sans voir.
C'est ça. C'est vrai que si vous aviez une petite photo à m'envoyer, ça serait quand même beaucoup plus sympa. Ouais, ça m'aiderait largement à vous aider, parce que là, je ne vois pas. Ou disons que bon, il y a peut-être un truc que je connais et qui bon. Ouais. Mais voilà, ça me revient pas spontanément à l'esprit. Dans tous les cas de figure, de toute façon, les bandes collantes pour revenir à ce que vous aviez fait, c'est pas mal, c'est
pendu,
plus.
Ouais, aux armes, voilà. C'est pas des bandes. J'ai pendu ça le long de l'arbre, oui. Dans les branches.
Dans les branches. Alors ça, pour le coup, franchement, ça sert à rien. Voilà. Autant ça sert dans le cerisier, parce que la couleur jaune attire la mouche de la cerise. Ouais. Et donc, du coup, la mouche de la cerise qui est attirée par le jaune va aller s'engluer dessus. Par contre, les carpocaps, qui sont des animaux, des papillons qui volent à la tombée de la nuit, ils ne voient pas les couleurs. Donc, le jaune, ils s'en fichent complètement. Hein. Donc, ça ne marchera pas pour le carpocaps. Si vous voulez attirer le carpocaps, il existe des pièges dits à phéromones. Donc, c'est on imite l'odeur de Madame Carpocaps. Donc tous les monsieur Carpocaps croient qu'il y a une Madame par là. Mmh. Ils arrivent et au lieu de trouver une Madame Carpocaps, ils trouvent un piège englué et là ils se retrouvent collés et ils meurent. Donc ça fonctionne, mais du coup c'est un piège à odeur, c'est pas un piège à couleur. Donc faut faire attention à ce genre de choses. Par contre, on peut aussi mettre des bandes collantes sur les troncs, parce que lorsque la chenille a fini de boulotter la pomme, elle descend en général le long du tronc. Si elle n'est pas tombée avec la pomme qui a été mangée, donc qui tombe, si elle, la pomme est restée accrochée, bien la chenille, elle descend le long du tronc, et quand elle trouve une bande engluée, et ben ça l'arrête net, et c'est comme ça, ça évite qu'elle se transforme en papillon pour la fois d'après. Donc ça, c'est à faire attention. En ce qui concerne cette attaque-là, je vois pas vraiment ce que c'est. Par contre, une chose qu'on peut encore faire maintenant et qui est tout à fait profitable au grossissement des fruits et à la bonne santé du pommier, c'est de faire des pulvérisations avec du purin de consoude. En ce moment, c'est la consoude. La période du purin d'ortie s'est terminée. Hein, c'est le début de saison parce que le purin d'ortie est très riche en azote et qu'en début de saison, les plantes ont besoin d'azote. Après, elles ont moins besoin d'azote. Donc, dans la consoude, ça tombe bien, il y a moins d'azote. Par contre, il y a de la potasse et du bore qui sont des éléments qui sont indispensables à la formation des fruits. Donc, faites, si vous en trouvez du purin de consoude, si vous n'en trouvez pas, on en trouve en jardinerie des produits relativement corrects. Hein. Et donc, faites des pulvérisations au purin de consoude. L'avantage, c'est que ça va chasser énormément d'insectes, hein, parce qu'ils n'aiment pas cette pulvérisation-là. Alors, je rappelle que les pulvérisations se font toujours à la fraîche, soit le matin de bonne heure, soit le soir tard, surtout pas en pleine chaleur. Hein, ce n'est pas du tout bon pour les plantes. Et puis, si vous avez l'occasion, faites des photos, envoyez-les-moi, ouais. Et comme ça, je pourrais vous aider plus précisément pour votre question très particulière.
Voilà, francebleu.fr, voilà. Rubrique Jardin Bleu sur Internet. Vous tapez même directement sur le moteur de recherche Jardin Bleu, Philippe Munier, France Bleu Armorique. Vous allez arriver directement sur la page et là, vous allez pouvoir laisser un petit commentaire et même mettre en pièce jointe une photo, justement. Ça va pouvoir donc orienter sur des questions assez particulières, comme ça, où c'est pas évident de définir justement comment sont ces petites taches et ces points blancs. Merci Yvon, en tout cas, pour votre question et bon dimanche. Au revoir.
Oui, bon.
Nous allons à Loyat avec Gérard. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Gérard ?
Alors, moi, c'est un abricotier et il est bien chargé. Et il est encordé de partout. Je suis monté dans l'arbre et puis j'ai essayé pour retenir les branches. Mais bon, il n'a jamais été taillé. Alors j'aurais voulu savoir, il a 18 ans, hein, l'abricotier. Et j'aurais voulu savoir quand est-ce qu'on peut le tailler, quoi. Est-ce que c'est possible de le tailler ? Parce que là, les branches sont, elles sont pas grosses, mais alors, il y a beaucoup d'abricots, quoi. Alors, voilà.
Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Alors, déjà, quand on a une belle année, et c'est vrai que c'est une très belle année pour les arbres à noyaux cette année, hein, que ce soit la cerise, l'abricot, la prune, les arbres sont très chargés, la première chose à faire très tôt en saison, c'est d'enlever au moins un fruit sur deux, voire deux fruits sur trois, hein, de manière à ce que l'arbre puisse nourrir correctement un certain nombre d'abricots et qu'il n'y ait pas de surcharge qui va le fatiguer, qui risque de casser les branches, qui va le fatiguer, qui fait que l'année prochaine, il ne va rien donner. Hein. Donc déjà, si on élimine une partie de la production, ça permet d'avoir une bonne production l'année prochaine au lieu d'avoir rien du tout l'année prochaine. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut se rappeler que les arbres à noyaux, ils fructifient toujours en bout de branche. Donc si on ne les taille pas, effectivement, plus ça va d'année en année, plus la production s'éloigne du tronc de l'arbre et va de plus en plus loin. Donc, comme les branches ne sont pas très grosses, vous le disiez, eh ben, il y a du poids qui se met de plus en plus loin sur les branches et effectivement, ça risque de casser. Donc, ce qui est très bien, c'est de tailler dès la première récolte et même avant, parce qu'on fait d'abord une taille de formation et puis ensuite, on va tailler systématiquement. Et la meilleure période pour tailler, c'est juste après la récolte, parce que vous voyez où vous avez récolté et le but du jeu au début, il ne faut pas s'énerver non plus, c'est de ne supprimer que la partie qui a fructifié cette année. Vous allez, si vous regardez bien, ça doit être déjà visible maintenant, si vous regardez la partie qui est en fruit, vous partez donc du bout de la branche et vous remontez tout doucement vers le tronc, vous allez voir donc le bout de la branche, puis tous les différents fruits, et à la limite de la branche de l'année dernière et de cette année, il y a un changement de couleur, et vous allez voir sur le bas de la branche de cette année, un petit rameau, une petite pousse, qui est en général pas très grande, à cette époque-ci, elle doit faire peut-être 5-6 cm, et qui est en fait la pousse de remplacement de l'année prochaine. Si vous coupez juste en dessous, pour la garder, cette pousse de remplacement, eh bien c'est cette pousse-là qui va redémarrer et qui va vous faire la production de l'année prochaine. Et ce qui fait qu'il ne va pas continuer à s'allonger indéfiniment. Et puis, après, si vous avez un petit peu l'expérience de la taille, ou si vous ne l'avez pas, si vous contacter quelqu'un qui a un peu d'expérience, c'est de la taille, eh bien, il y a moyen de rajeunir un abricotier sans trop diminuer la production. Le but du jeu, c'est de continuer à manger des fruits quand même. Donc, si vous faites un gros travail de taille, un petit peu à la sauvage, vous risquez d'être 4, 5, 6 ans sans fruits. C'est pas intéressant. Donc, il faut revenir tout doucement. Et là, il y a des techniques, mais que je peux pas expliquer à la radio, hein. Ça s'explique dans un verger avec un sécateur à la main. Mm-hmm. Il y a des techniques qui permettent de rajeunir l'arbre tout doucement. Si ça fait 18 ans que vous ne l'avez pas taillé, eh ben, on ne va pas mettre 18 ans à le ramener à zéro, mais on va mettre au moins 5, 6, 7 ans, tranquillement, et ce qui permet à la fois de le rajeunir et à la fois de continuer à manger des fruits tous les ans, parce que c'est quand même l'intérêt de la chose.
Voilà, Gérard, merci beaucoup pour votre question. Si vous avez des trucs pour me rajeunir, Philippe, moi je veux bien, mais je ne sais pas comment vous allez me tailler quand même.
Alors, vous n'êtes pas un arbre non plus, quoi, vous êtes un monument.
Oh, certainement, oui. Alors, on va maintenant accueillir Janine qui est avec nous. Janine à Fougères, bonjour.
Oui, bonjour, Philippe Meunier.
Alors, Janine, quelle est votre question à Philippe ?
Je
suis pas un monument.
Je voudrais planter des hortensias en ligne et je voudrais savoir quel espace entre chaque pied il faut laisser.
Alors, ça dépend. Vous avez l'intention de les tailler correctement, vos hortensias, après, ou de ne pas les tailler. Les taillez tous les ans, ce qui est préférable pour garder un joli port, ou tous les deux ans, d'ailleurs, on peut le faire que tous les ans, mais garder un joli port à vos hortensias, qu'ils soient bien florifères, qu'ils fassent des jolies fleurs, qu'ils aient des belles feuilles, qu'ils ne se fatiguent pas. Il faut, donc, je vous dis, faire une taille au minimum tous les deux ans. Et dans ces cas-là, vous pouvez espacer d'un mètre maximum. Si vous vous dites au bas, un mètre entre deux plans. Voilà. Si vous dites, oh, bon, de toute façon, j'ai plus l'âge, j'aurai pas le temps, j'aurai pas le courage, ils vont se débrouiller, on verra bien. Là, je vous conseille de mettre carrément 1m50, voire 2m, parce qu'ils vont monter très haut, ils vont gêner. Alors, au début, pendant 2 ans, ça fait un petit peu tristounet, mais très rapidement, l'hortensia, l'avantage, c'est que si la terre est bonne et si vous le bichonnez bien, ça pousse très vite. Et donc, ça permet de boucher très rapidement les trous et ça devient très joli au bout de 3-4 ans. Mais c'est par contre, planter tous les mètres et bien taillé, bien renforcé, bien nourri tous les ans, vous aurez une haie magnifique dès la deuxième année.
Eh ben voilà, Janine, merci pour votre question, bon courage à vous et très bon dimanche, on repart en musique et puis après on retrouvera Marie-Noël, Jean-Luc et Alain qui attendent pour poser leurs questions.
Jusqu'à 10h, Philippe Meunier, notre expert jardin, répond à vos questions.
La RGV arrive en Bretagne.
France Bleu suit l'événement.
La ligne à grande vitesse.
J-7.
Têtes de lard ou têtes de con, hommes et femmes, ouvrières et corsaires, de l'âge du fer à la semaine dernière, ils ont fait l'histoire de notre pays.
Alors, tous les jours de l'année, à 6h10, 11h40, 17h45, Ronan Manuel nous raconte ses sacrées têtes de Breton.
Jeanne Jugand, Ernest Renan, Irène Frein, Albert Poulain, de la Bollardière, Réphare de Saint-Pierre, Anatole Lebrun. Retrouvez les sacrées têtes de Breton sur France Bleu Armorique et FranceBleu.fr.
Les éditions Radio France présentent le livre CD « 3 minutes à méditer » de Christophe André, une coédition France Culture. Au travers de 40 exercices de méditation, Christophe André nous donne les clés pour prendre conscience de notre état intérieur et écouter la rumeur du monde. Chaque jour, 3 minutes pour respirer, se concentrer et lâcher prise. 3 minutes en apesanteur avec soi-même.
Et pensez-y. Soyez présent à votre vie.
France Bleu Armorique, au cœur de la Bretagne.
Je marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Dans ma tête, y a pas d'affaires. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête, y a rien à faire. Je suis mal en campagne et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô, maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô, maman, bobo. Allô, maman, bobo. bobos. Traîne fumée, je me retrouve avec mal au cœur. J'ai vomi tout mon 4 heures. Faites nuit folle avec les gens qui ont du bol. Maintenant que je fais du music-hall, je suis mal à la scène et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô, maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô, maman, bobo. Allô, maman, bobo. Sorti de port à la voile, la nuit parée les étoiles. Moi, les chevaux, le revolver et le chapeau clown, la belle Peggy du saloon. J'suis mal en homme dur et mal en petit cœur. Peut-être un petit peu trop rêveur. Allô, maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, j'suis pas beau. Allô maman bobo. Allô maman bobo. Je marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Dans ma tête y'a pas d'affaire. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête y'a rien à faire. Je suis mal en campagne, je suis mal en vie. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman bobo. Maman comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman bobo. Allô maman bobo. Allô maman bobo. Maman comment tu m'as fait, je suis pas beau.
Allô, maman, bobo, il marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Attention, hein, c'est une LGV, Alain, maintenant. Donc, enlève-toi des rails, s'il te plaît, quand même.
Vous avez les questions ? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
02 99 67 35 35 avec Marie-Noël, à Plunerette. Bonjour, Marie-Noël.
Bonjour Daniel, bonjour Philippe Meunier.
Alors, bonjour. Qu'est-ce que vous voulez faire un cadeau à votre nièce, c'est ça?
C'est ça, et donc elle habite à Colmar, près du Rhin.
Ouais.
Donc je ne connais pas le sol, étant donné qu'en hiver il fait très froid et en été très chaud.
Ouais.
Donc qu'est-ce que je pourrais lui offrir comme arbuste dans un petit jardin?
Ah.
Oh. Alors, vous me posez une colle terrible. Alors il y a pas mal de plantes hein, en Alsace. L'Alsace est un comme la Bretagne, une terre de jardin. Alors effectivement, on ne met pas les mêmes plantes parce que toutes les plantes de bord de mer, toutes les plantes un petit peu peu rustiques, et là-bas elles mourraient systématiquement l'hiver et puis elles auraient crèveraient de chaud l'été. Donc on oublie. Mais il y a toute une gamme de plantes tout à fait jolies. Alors, petit arbuste, vous voulez qu'il soit en fleurs en plus ou pas?
Oui, oui, ah bah oui.
Ah bah oui, tiens, autant qu'à faire. Il y a celui que j'aime bien puis qui résiste. Alors, il résiste qu'à moins 12, moins 13, moins 14. Alors c'est peut-être un petit peu limite peut-être pour l'Alsace, il faudrait voir. Quoique Colmar est un petit peu plus chaud que Strasbourg, c'est limite, mais c'est bon, c'est un peu moins froid, on va dire. Il y a donc la Bellia grandiflora, hein, qui est une plante originaire de Chine. Enfin, c'est deux plantes originaires de Chine qui ont été croisées. Ça fait Abelia croix grandiflora. Et c'est un
petit arbre.
Abelia. A-B-E-L-I-A. C'est tout bête. Un grandiflora.
Abelia, oui.
Voilà. Et donc, c'est un petit arbuste à feuilles persistantes jusqu'à moins 10. En dessous de moins 10, elles perdent leurs feuilles, mais elles repoussent au printemps.
Hein,
jusqu'à entre moins 10 et moins 15, je crois que c'est moins 18 même, la résistance. Donc, ça va, ça commence à. Bon,
avec
le réchauffement climatique, on va y arriver. Et puis, l'avantage, c'est que c'est un arbuste qui fleurit pratiquement, et comment il se met en fleurs fin mai, et puis il fleurit jusqu'au gelé. Donc, c'est quand même sympa. Hein, oui. Et puis, il y a des variétés qui sont, qui ont un feuillage. Il y en a un qui s'appelle kaléidoscope. Donc, vous voyez, ça veut tout de suite dire ce que ça veut dire. Il passe son temps à changer de couleur toute l'année. Dès le printemps, il est plutôt dans les rouges. À l'automne, il est dans les rouges, mais c'est pas les mêmes. Au milieu, il passe dans des jaunes, dans des oranges, dans des verts. C'est absolument bon. Et, il reste tout petit, hein, kaléidoscope. Donc, c'est un abélia. Hein. Et puis, il y en a un autre qui est beaucoup plus grand. Je crois que c'est Leonard Missel. Qui a un feuillage doré, un magnifique feuillage doré. Vous voyez, il y en a plein. Bon, Grandiflora classique, c'est un joli feuillage vert, mais des très jolies petites fleurs mauves. Bon, voilà, il y a plein de choses autour de l'abélia. Prenez le temps d'aller regarder ça tranquillement dans une pépinière ou sur Internet aussi. Hein. On trouve plein de très bonnes informations. Et le tout, c'est de trier, parce qu'on trouve aussi plein de mauvaises. Donc, il faut faire attention. Et puis, je pense que je vais y réfléchir. Si je trouve d'autres chose, je ferai parvenir en direct le fruit de ma pensée.
Voilà, exactement. Merci beaucoup Marie-Noël, c'est vrai que c'est très joli Colmar avec les fleurs. On peut peut-être mettre un Gewurz, mais non, c'est pas une plante. Ça,
non. C'est à partir de plantes. Hein.
Voilà. Merci Marie-Noël, bon dimanche à vous, au revoir. Jean-Luc est à Donloup, bonjour. Jean-Luc.
Philippe, bonjour à vous aussi. L'autre, je vous appelle parce que j'ai un kiwi. J'ai un kiwi mâle et puis le kiwi femelle. Alors le kiwi qui a des fruits, il est énorme et les fruits qui commencent à venir. Mais je voudrais savoir, est-ce que je peux le tailler un peu ?
Alors, oui, mais faut pas faire n'importe quoi. Faut faire attention, surtout s'il commence à fructifier. Si vous le traumatisez, il en aura ras-le-bol et il va éjecter tous les fruits. Donc, faut pas l'énerver non plus. Hein. Donc, la première chose à faire, lorsque vous avez donc la liane de kiwi qui commence à faire ses fruits, lorsque les fruits sont gros comme, on va dire, des grains de cassis à peu près, vous regardez bien où sont situés les fruits. D'accord. Et vous continuez vers le bout de la liane et là, vous coupez 4 feuilles au-dessus de la grappe de fruits.
D'accord. 4 feuilles au-dessus de la grappe de fruits.
Voilà. Comme le kiwi, c'est une plante très puissante, il va repartir à partir de la dernière des 4 feuilles. Là, il va repartir, il va recommencer une autre tige. Et donc, quand elle sera bien formée, quand elle aura 4-5 feuilles, vous couperez à 3 feuilles. Et puis, ça va repartir, vous couperez à 2 feuilles. Et en général, on est arrivé au mois d'octobre et on s'arrête là parce qu'ils perdent leurs feuilles. Donc, c'est facile, 4-3-2. Hein, voilà. Si vraiment ils ont le temps, vous allez jusqu'à 1. Voilà. Mais en général, ça n'a pas le temps d'aller jusqu'à repartir encore une fois. Et le but de cette taille-là, c'est de relancer la sève sur les fruits de manière à ce qu'ils grossissent mieux. Ça, c'est la première taille. La deuxième taille, toutes les branches qui ne portent pas de fruits, hein, il y en a pas mal, vous pouvez les redescendre et les tailler à peu près 10-15 cm de la charpente, de manière à les obliger à comme se renforcer. Là aussi, vous allez rabattre la sève violemment vers le tronc. Ça va les renforcer et ça permettra l'année prochaine que ces branches-là portent des fruits. Ça va les inciter à se mettre à fruit dès l'année prochaine. Donc ça fait que l'année prochaine, vous aurez encore plus de fruits et il faudra recommencer et ainsi de suite.
Voilà. Bon, vous avez compris le principe.
Attendez, et l'autre qui n'a pas de fruits, parce que il y a un mâle et une femelle. L'autre qui n'a pas de fruits.
Alors le mâle,
il fait au moins 9 mètres carrés, lui. Il est énorme.
Le mâle, il faut le tailler aussi, mais il faut le tailler délicatement. Hein, si vous voulez avoir des fleurs, parce que lui le femelle, il fait des fruits, mais s'il n'y a pas les fleurs mâles, il n'y aura pas de fruits quand même. Donc, il faut effectivement pas le tailler à la sauvage pour pas le mettre de mauvaise humeur et qu'il ne fasse pas de fleurs l'année prochaine. Donc, c'est un petit peu détail de ce type-là aussi. C'est-à-dire que vous, pareil, les branches qui n'ont pas fleuri, et on doit encore le voir maintenant, ça doit devenir un peu dur, mais on doit encore le voir. Toutes les branches qui n'ont pas fini, vous les rabattez à 10-15 cm, d'accord ? Et puis les branches qui ont fleuri, vous les rabattez à peu près d'un petit tiers.
Voilà. Bon, maintenant, vous avez le mode d'emploi, il n'y a plus qu'à...
Et là, il y a du boulot, maintenant, parce que...
C'est ça, oui.
Ça va faire du volume. Alors, vous broyez tout, hein, et puis vous mettez tout au pied des kiwis, parce que le pied des kiwis a besoin d'être toujours bien frais, donc on met un gros paillage, et le paillage du kiwi, ça permet de nourrir le kiwi. C'est quand même... ça paraît logique.
C'est pas bête, ça, dites donc. Merci beaucoup pour votre question, Jean-Luc. Alain est à Taupon, bonjour.
Oui, bonjour Daniel, bonjour Philippe.
Alors, vous avez des envahisseurs chez vous ?
Oui, c'est ça, je me permets de vous appeler parce que tous les soirs, vers 22h, nous sommes envahis par des hannetons. Et ces insectes viennent boulotter tous les arbres du secteur, là.
Alors,
je vais savoir quoi faire éventuellement.
Je vais vous embêter là, je vais vous dire fichez-leur la paix, parce que les hannetons, il y a, quand j'étais gamin, c'était une plaie, effectivement. Il y avait même dans certaines régions de France une prime à la destruction des larves de hannetons. Vous récupériez les larves, vous allez à la mairie pour vous donner 3 francs 6 sous pour vous récompenser, sauf qu'à force de faire ça, et puis plus les produits chimiques, plus le matraquage des terres à grands coups de charrue, plus d'autres amusements du même goût, il n'y a plus de hannetons. Donc c'est vrai que de temps en temps, 1 an sur 3, vu qu'il faut vivre 3 ans en terre avant d'arriver, de temps en temps, il y a des poussées comme ça, un petit peu plus fortes. Le hanneton, il est vraiment... il mange un petit peu les feuilles, c'est vrai, hein, mais il mange relativement peu par rapport à ce que mange la larve. Le gros problème du hanneton, c'est la larve, et c'est vrai qu'elle boulotte pendant 3 ans les racines et est un petit peu casse-pied au jardin. Mais dans la mesure où on est vraiment sur un insecte qui est en voie de disparition, moi j'ai vraiment tendance à dire... les dégâts qu'ils font, c'est rien à côté des dégâts qu'il y aura lorsqu'ils auront disparu. Donc, accepter les hannetons, d'abord, c'est un très bel insecte, un insecte magnifique, qui bouffe de la feuille, c'est vrai, il faut le reconnaître. S'ils sont, ils vous enquiquinent, mettez un petit store pour pas qu'ils rentrent dans la pièce, parce qu'ils sont attirés par la lumière. Hein. Mettez un petit store, un petit truc léger, ça les empêchera de rentrer. Mais voilà, les dégâts induits par la disparition des espèces végétales et animales seront largement pires que les dégâts qu'on peut subir maintenant. Voilà, c'est clair, net et précis.
J'avais peur, comme j'ai des arbres, des jeunes arbres, j'avais peur qu'ils me les épluchent, quoi.
Non, le hanneton, il mange, hein, c'est vrai, c'est un découpeur de feuilles, mais je vous dis, c'est rien à côté de ce que fait sa larve.
Voilà, donc vous savez à quoi vous en tenir.
Quand vous bêchez le jardin, que vous trouvez une larve, que vous la coupiez en deux, là je vous comprends, hein. En tant que jardinier, je le fais aussi. Mais c'est vrai qu'après, quand je vois un insecte adulte, d'abord c'est magnifique, et puis en plus je me dis, mon pote, t'es en voie de disparition, je te laisse la vie et je te laisse mon jardin pour casser la croûte.
Voilà, comme quoi il faut philosopher quand on est jardinier, c'est très important. Merci Alain, et nous allons à Hennebon maintenant avec Daniel, bonjour. Allô?
Est-ce que Daniel, oui, le téléphone au sujet des pucerons qui sont sur les pucerons blancs qui sont sur les feuilles de pêcher.
Oui.
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 Alors, vous avez la chance qu'ils soient blancs.
Les feuilles deviennent toutes gluantes.
Mm-hmm.
Vous connaissez sans doute le problème, non?
Oui, oui, tout à fait.
Alors, j'ai essayé le traitement avec du savon noir.
Oui.
Bon, elles sont moins gluantes, mais mes feuilles sont en train de noircir. Est-ce que je dois continuer le traitement là?
Oui, 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 oui. Alors, en fait, est-ce que vous avez bien fait 3 jours de suite?
J'ai fait 2 fois, là, pour l'instant. Pas fait deux de suite, parce que j'avais regardé sur Internet, il parlait d'une fois par semaine, alors j'ai pas trouvé...
Oui, non, mais alors, je le disais tout à l'heure, Internet dit des bêtises, et là, je confirme. Hein. Sur ce coup-là, c'est vraiment une bêtise, c'est pas une fois par semaine. Quand on attaque du puceron, il faut vraiment être très systématique, il faut y aller. Et c'est 3 jours de suite, pourquoi? C'est tout bête, hein, parce que les pucerons, en général, ils sont en plusieurs couches, et en moyenne, il y a 3 couches. Donc, le premier jour, vous tuez la couche supérieure, le deuxième jour, vous tuez la deuxième couche, et le troisième jour, vous tuez la couche du fond. Hein, et du coup, ça permet de diminuer énormément les populations et donc d'après d'être tranquille. Si vous faites une fois par semaine, quand il fait chaud, les pucerons, un puceron peut se reproduire et faire une trentaine, une quarantaine, voire une centaine en fonction dès le lendemain. Donc c'est pour ça qu'il faut être 3 jours de suite pour diminuer la population de manière très violente. Et après, on peut regarder, voir évoluer, dire là il en reste un petit nombre, je peux leur foutre la paix, les larves de coccinelle, les larves de chrysope, les oiseaux, etc. vont faire le boulot.
Parce que je vois qu'il y a quelques coccinelles dessus, mais elles risquent pas de, avec le savon noir, de mourir.
Alors, si vous avez des coccinelles dessus, si vous voyez, et il faut faire très attention aussi quand on voit des colonies de pucerons, de bien regarder la couleur des pucerons. C'est pour ça que la couleur est très importante et vous avez bien fait de parler de pucerons blancs. Lorsque vous avez une colonie de pucerons, si vous voyez qu'il y en a qui sont actifs et qui sont d'une certaine couleur, alors des pucerons, il y en a des blancs, des gris, des verts, des noirs, mais que vous avez aussi beaucoup qui n'ont pas la même couleur. En général, ceux qui n'ont pas la même couleur, c'est parce qu'ils sont déjà morts et qu'ils ont été parasités par des petites guêpes qui viennent viennent pondre leurs œufs dans les pucerons et la petite larve se développe dans le puceron, bouffe le puceron et donc il est mort. Mais par contre, l'enveloppe reste, mais elle n'a plus la même couleur. Donc il faut bien regarder les colonies de pucerons. D'une part, si vous avez des larves de coccinelle, des larves de chrysope, hein, qui sont un petit peu plus petites, mais qui boulottent autant de pucerons, si vous voyez qu'il y a plein de pucerons qui ne sont pas de la même couleur que les autres, ça veut dire qu'ils sont déjà morts, eh bien, dans ce cas-là, c'est même plus la peine de faire de traitement. Vous fichez la paix aux pucerons parce qu'ils sont. Il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle la nature avec un grand N qui est en train de s'en occuper. Le seul cas où il faut faire du traitement au savon noir, c'est quand, effectivement, on constate qu'il n'y a personne en train de les boulotter et que là, il faut faire quelque chose. Mais si vous avez des bestioles en train de s'en occuper, fichez-leur la paix, laissez la nature faire. Ils vont peut-être avoir du mal cette année, mais du coup, ça va les nourrir, ça va permettre de multiplier la population. Et l'année prochaine, il y en aura encore plus qui seront disponibles pour attaquer plus tôt, peut-être. Et donc, du coup, vous n'aurez pas de problème de pucerons l'année prochaine.
Eh ben voilà, c'est bien quand on peut laisser la nature faire les choses. En plus, pendant ce temps-là, ben nous, on regarde. Merci, Daniel. Nous allons faire une pause en musique et puis retrouver Marie-Odelle du Vivier sur Mère qui a des problèmes avec ses cerises, cœur de pigeon, et Thierry à l'Andujan qui a des tomates qui noircissent.
Vous avez les questions ? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35. France Bleu Armorique. On cuisine ensemble.
Un bon potage à base de légumes crus mixés et servi froid. Ça tombe bien pour l'été. C'est le gazpacho. Très réputé dans le sud de l'Espagne et du Portugal, c'est une base avec des tomates mixées, avec de l'eau ou des glaçons. On peut y ajouter de la mie de pain, plein de légumes tels que le concombre, le poivron, etc. etc. Comment faites-vous votre gazpacho? On en parle tout à l'heure, à 10h, sur France Bleu Armorique.
Souriez, on cuisine ensemble. France Bleu, partenaire des Copains d'abord, chante l'été sur France 2. Chaim et Antoine Duléry réunissent autour d'eux une joyeuse bande d'artistes, parmi lesquels les Kids United, Julien Doré, Claudio Capeo, Vianney, Julie Zenati et beaucoup d'autres pour chanter les plus grands tubes de l'été. Au programme, bonne humeur, humour et fête.
Les Copains d'abord chantent l'été. Une soirée exceptionnelle, mardi 27 juin à 20h55 sur France 2, dans vos chroniques télé et sur francebleu.fr.
Je branche ma guitare.
musique, c'est son nouveau titre Calogero sur France Bleu Armorique. Très bon dimanche à toutes et à tous.
Vous avez les questions? Il a la main verte. Philippe Meunier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Et nous partons, Vivier sur mer, avec la question de Marie-Odile. Bonjour Marie-Odile.
Bonjour. Voilà, je vous appelais au sujet de cerisier. J'ai de la cœur de pigeon qui est piquée. Alors les cerises, elles sont intactes. Et quand on les ouvre, elles sont pleines de vers ou alors elles sont pourries à l'intérieur, au noyau.
Eh oui, ben j'en parlais tout à l'heure justement de la fameuse mousse de la cerise et votre cœur de pigeon, elle est attaquée par cette mouche. Alors c'est une petite bestiole qui est pas sympa parce que effectivement elle pond ses petits œufs sur les cerises quand elles deviennent jaunes et ça tombe bien, la cœur de pigeon elle est très jaune quand même. Donc c'est l'une des cerises les plus attaquées par la mouche et donc le petit asticot ben il rentre dans la cerise, il boulotte la cerise et en plus comme il est pas sympa dans sa salive il y a un activateur de pourrissement, donc au fur et à mesure qu'il avance, ça pourrit derrière, donc soit si elles ne sont pas boulottées simplement, elles sont déjà pourries, et c'est une catastrophe. Donc sachant que il n'y a pas grand chose parce qu'on ne peut pas balancer des tonnes d'pesticides, d'insecticides partout, hein, sinon on va tuer tout sauf peut-être la mouche de la cerise. La solution c'est d'attaquer en amont. Alors en amont c'est quoi? Ça veut dire qu'on sait donc que la mouche de la cerise elle adore le jaune, ce qui fait que dans un cerisier, surtout comme le cœur de pigeon, vous mettez avant, quand les cerises sont encore vertes et avant qu'elles tournent, parce que la cerise quand elle passe du vert au rouge elle passe par le jaune, et donc avant qu'elle ne passe au jaune, on met dans les cerisiers, plutôt sur les branches extérieures, des appâts jaunes, qui fait que les mouches qui se baladent par là se disent « ça y est, c'est super, du jaune, j'arrive », et paf, elles se retrouvent collées. Ça permet de limiter pas mal les populations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lorsque les cerises contaminées, habitées par les asticots, tombent au sol, elles rentrent dans le sol, dans les premiers centimètres du sol, et là, elles vont faire finir leur cycle tranquillement, elles vont devenir une petite pupe, et la petite pupe de la petite pupe jaillira au printemps prochain une nouvelle mouche qui recommencera ses dégâts. Donc elles sont juste en dessous du cerisier, elles sont proches du casse-croûte. On peut très bien empêcher cette prolifération en mettant des poules au pied des cerisiers dès la période de récolte, donc maintenant, de manière à ce qu'elles mangent au fur et à mesure les fruits avec les asticots encore vivants dedans, et ensuite elles vont gratter, on les laisse encore pas mal traîner après la récolte, pour qu'elles aillent gratter bien au pied du cerisier. D'abord elles vont fertiliser les racines du cerisier, et d'autre part elles vont manger toutes ces petites pupes qui sont en train de se préparer, qui risquent de contaminer les prochaines. Donc vous avez deux moyens d'attaquer, un juste avant, un juste après. Entre les deux, ça marche plutôt bien, donc ça évite de mettre des produits chimiques dans l'atmosphère et on a un résultat qui est plutôt intéressant.
Voilà, donc on va souhaiter que pour l'année prochaine, en tout cas, Marie-Odile, vous ayez pris toutes vos précautions et qu'on puisse à nouveau déguster vos cœurs de pigeon. Nous allons à Landugent avec Thierry, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors Thierry, vous, c'est les tomates?
Ouais, les tomates noircisses au bout, à l'arrière, quoi.
Ah, ça s'appelle la nécrose apicale. Ça s'appelle aussi beaucoup plus joliment la maladie du cul noir. donc, bah oui, il faut dire les choses comme elles sont.
Ben oui.
Donc, la maladie du cul noir, c'est purement et simplement une maladie. Enfin, ce n'est pas une maladie. C'est une attaque physiologique. C'est-à-dire que c'est dû à une erreur. C'est une manière gentille de dire une erreur du jardinier. Alors, il faut savoir qu'en période estivale, d'une manière générale, lorsque les tomates sont. Elles sont sous tunnel, vos tomates?
Oui, oui, oui.
Ouais. Donc sous tunnel, la température peut monter largement à 45-50 degrés. Dès que la température pour les tomates monte au-dessus de 38 degrés, la tomate se trouve dans l'impossibilité de fixer le calcium du sol. Or, la tomate a besoin, comme quasiment tous les végétaux, de calcium pour bien former son fruit. Et cette carence en calcium, parce qu'elle ne peut plus le fixer, donc elle est carencée, conduit à la nécrose apicale. Donc, c'est pas le but du jeu, c'est pas de remettre du calcium dans le sol. Le but du jeu, c'est d'aérer suffisamment son tunnel pour empêcher la température de monter au-dessus de 38 degrés, qui est déjà une température assez puissante. Donc là, c'est la difficulté avec les tunnels, c'est de pouvoir aérer suffisamment bien pour empêcher toutes les températures au-dessus de 38 degrés. Donc à 35, c'est pas mal, hein, ça suffit. Mais la tomate, elle aime bien être entre 18 et 28. C'est l'idéal pour elle, c'est l'idéal de croissance. Dès que vous dépassez 30, elle commence à souffrir un petit peu. Et 38, je vous dis, là, c'est la cata. Donc aérez largement votre tunnel, trouver des solutions d'aération supplémentaires de manière à ce que ça ne puisse plus monter à des très fortes températures. Vous, ça c'est la première chose. La deuxième chose, pour les tomates qui sont actuellement en place, si vous n'avez pas la possibilité d'aérer suffisamment, je vous conseille de mettre un produit, donc c'est un produit vendu sous l'appellation Mega Green, c'est une marque registrée, hein,
de Mega Green.
Mega Green, oui. C'est un produit qu'on trouve en jardinerie. C'est du calcium, en fait, en très, très, très petite quantité, enfin, en très, très petite taille, hein, c'est microscopique. Et ce calcium-là, vous le pulvérisez. Alors, je rappelle, on pulvérise toujours à la fraîche, hein, le matin de bonne heure ou le soir tard. Donc, vous pulvérisez sur vos tomates. Ça va leur apporter un peu de calcium directement par les feuilles, mais c'est juste un pis-aller. L'action principale, c'est réguler la température de votre serre. Débrouillez-vous comme vous voulez, mais il faut que ça ne monte pas au-dessus de 38 degrés.
Voilà.
Mais pour les aider à passer le cap, voilà, mettez du Mega Green, ça va leur faire beaucoup de. Et puis faites aussi attention, le cul noir peut aussi être provoqué par des arrosages en accordéon. La tomate a besoin d'avoir les pieds au frais, hein, surtout pas de détremper, surtout pas les pieds trempés, au frais à peu près tout le temps. Donc faites attention à ne pas mettre beaucoup d'eau en début de semaine et puis d'arrêter après. Il faut déjà pailler les pieds pour éviter que ça se dessèche trop. Et d'autre part, il faut une irrigation qui soit la plus régulière possible. Et pour ça, les tuyaux poreux sont pas mal du tout.
Voilà, d'où une technique. Mais bon, j'espère qu'avec les conseils de Philippe Quiry, vous allez retrouver de belles tomates. À Aradon, c'est Marie-France qui nous attend. Bonjour Marie-France.
Bonjour. Voilà, moi j'ai un souci avec un laurier. Les feuilles se tournent sur 1 cm, 2 cm, elles se retournent comme ça, elles deviennent blanches, et quand je les, moi-même, je les défais, quoi. Et là, je trouve des petites choses blanches, on dirait quoi, comme des mies, des petits pucerons blancs, voilà. Et j'en ai des centaines et des centaines, surtout mon laurier qui doit faire 2 mètres de haut, quoi. Voilà.
Alors c'est un laurier rose ?
Non, c'est un laurier
de pour faire le pot-au-feu, quoi.
Tout à fait.
Un laurier sauce, voilà. On l'appelle plus joliment laurier d'Apollon, mais le laurier sauce, c'est bien, au moins c'est de qui on parle. Alors, le laurier, c'est vraiment typiquement l'arbre qui n'a quasiment pas de maladie, hein, pratiquement pas. Effectivement, il y a de temps en temps des petits pucerons qui attaquent, mais il y a plus d'autres. Alors, pour ce cas particulier, la solution la plus simple et la plus efficace, c'est de lui pulvériser sur le feuillage pendant une semaine, tous les jours, de l'eau. Simple. De la bonne eau. Voilà. Et en général, ça suffit largement. Et si vous avez le courage de déplier les feuilles pour en plus mouiller l'intérieur, ça sera encore plus efficace. Mais ça suffit largement. De toute façon, il a, lui, largement les possibilités avec toutes les essences qu'il fabrique de se défendre contre 90% des maladies. Il ne reste plus qu'effectivement quelques pucerons qui l'attaquent. Et je vous dis, en général, il déteste l'eau et ça va très très vite. C'est surtout provoqué cette année par l'excès de chaleur et surtout le manque d'eau qui fait qu'il y a une concentration d'éléments nutritifs dans les sèves de toutes les plantes qui fait que cette année, on a plus de pucerons que les autres années.
Voilà, une explication en tout cas. Et la façon de réagir. On repart avec une petite pause musicale juste après. André Oval, André et Nathalie Fougère poseront leurs questions à Philippe.
Vous avez les questions ? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorick, vous répond jusqu'à 10h.
France Bleu. Tous les jours sur France Bleu Armorique, il fait la pluie et le beau temps.
Pour l'instant, le temps est calme sur le bassin rennais et le centre-Bretagne. Record battu sur donc la côte d'Émeraude.
Du lundi au vendredi, juste avant le journal de 7h et de 8h, Sébastien Decaux, le prévisionniste de France Bleu Armorique, vous dit tout.
Cet après-midi, ça va monter jusqu'à 25, 26, pourquoi pas même 27 degrés, donc ambiance tropicale.
La météo en Bretagne, au plus près, au plus juste, avec Sébastien Decaux sur France Bleu Armorique.
France Bleu, action. Vous faites aimer le cinéma.
Tu rêvais d'être pompier ?
Une nouvelle venue dans une caserne du sud de la France.
Ouais, comme beaucoup de gamins.
Un été chaud dans un quotidien rythmé par les urgences.
Tu quittes pas ton équipier des yeux, reste bien sur le coup. Parce que des fois, on regarde le spectacle et c'est à ce moment-là qu'on se fait cramer.
Les Hommes du Feu, un film de Pierre Jolivet avec Roche Dizem et Émilie Dequen, le 5 juillet au cinéma. La bande-annonce à découvrir dès maintenant sur francebleu.fr.
Dire
Robert, t'as bien pris tes médicaments Mylan ce soir?
Bah non, en fait j'ai peur de pas bien les supporter.
Robert, je te l'ai déjà dit, pour ces médicaments, Mylan s'engage à choisir des excipients qui limitent au maximum le risque d'intolérance. Pourquoi tu t'inquiètes?
C'est vrai ça. Qu'est-ce que je ferais sans toi?
Et sans Mylan?
Mylan, c'est 3300 scientifiques qui travaillent dans nos 4 centres de recherche et développement pour chacun d'entre vous. Pour plus d'informations, rendez-vous sur mylan.fr ou demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.
Mylan.
Mylan.
Une meilleure santé.
Pour un monde meilleur.
Jusqu'à 10h, Philippe Munier, notre expert jardin, répond à vos questions.
Et il est 9h53 et donc du coup on va prendre déjà les questions d'André au Val-André de Nathalie Afougère. André, bonjour. André, allô?
Je suis au Val-Saint-Père.
Pardon?
Je suis au Val-Saint-Père. C'est pour Fougère?
Ah oui, non mais il y a aussi Nathalie qui est à Fougère, qui est après vous. Mais pour l'instant André, on écoute votre question.
Pour moi?
Oui, c'est à vous.
Bon, c'est au point de vue des hortensias.
Et oui.
Ils poussent comme des fous.
Oh là là, bah
c'est... Ils sont en plein nord, au pied d'un mur, au pied de l'appartement de ma maison. Ils viennent bientôt jusqu'à la gouttière.
Et vous les taillez tous les ans?
Je coupe les fleurs tous les ans et je les rabats de 20 à 30 cm.
Bah c'est pas assez, voilà.
Mais non, j'ai peur qu'ils fleurissent pas l'année d'après.
Alors, écoutez-moi bien André, la taille de l'hortensia, c'est une taille qui est très simple, il faut juste prendre le temps de regarder bien l'hortensia. Lorsque vous faites votre taille, l'idéal c'est de la faire fin octobre, c'est là où on voit le mieux ce qui se passe. Vous prenez toutes les fleurs qui ont fleuri, d'accord, les jolies fleurs fanées, vous descendez avec votre doigt tout le long du bois en allant le plus bas possible, et à chaque fois que vous rencontrez une branche, vous regardez si de l'autre côté, c'est un rameau qui est porteur d'un bourgeon terminal. Tous les rameaux au mois d'octobre qui ont un bourgeon terminal sont tous des rameaux qui vont fleurir l'année d'après. Donc ceux-là, on les garde. Et puis tout le reste, on l'enlève. C'est pas dur. Et dès que en faisant ça, vous allez voir que vos hortensias, ils vont diminuer de moitié et que vous aurez deux fois plus de fleurs.
Voilà. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à maintenant à prendre le sécateur et à suivre les conseils de Philippe.
Oh, au mois d'octobre, hein, on le prend pas tout de suite.
En attendant, on profite de la floraison de cette année, c'est sûr. Nathalie à Fougère, bonjour.
Bonjour, Basse Mimi. Voilà, moi chez moi, j'ai un pot du muguet qui est pris d'un sec. Au début, ils disaient que c'était des tiques, après, ils ont dit que c'était des charançons. Et puis, j'ai d'autres insectes blancs qui sautent quand j'arrose.
Alors, c'est dans un pot ou c'est dans un jardin? Vous êtes, c'est sur le balcon, c'est...
Non, c'est sur la terrasse.
Et sur la terrasse, ou balcon, terrasse.
D'accord, ouais. Je suis obligée de préparer parce que j'ai un autre pot de muguet. Alors, je me suis dit, ça peut attaquer aussi.
Alors, les bébêtes qui sautent, je pense que ce sont des trips, hein, c'est des petites bébêtes qui sont dans le sol et puis qui sautent et qui vont sur les feuilles, qui mangent un peu les feuilles, puis qui redescendent. Et il y a une chose qu'elles détestent particulièrement, c'est l'humidité. Donc quand le sol est, la terre est bien fraîche, hein, bien humide, sans être détrempée évidemment, eh bien elles détestent ça et elles s'en vont. Donc première chose, arrosez régulièrement vos pieds de muguet, pas trop, ne les abreuvez pas, ne les noyez pas, hein, vous leur donnez à boire des petites quantités. Ou mieux encore, vous mettez en surface un très bon paillage, un paillage fait avec des paillettes de lin, des paillettes de chanvre, de la cosse de sarrasin, et comme ça, ça va garder l'humidité, et donc la petite bébête, elle sera embêtée, elle ne pourra pas rester là-dedans, et elle ira ailleurs, chez le voisin, pour voir s'il y a des choses intéressantes. Ça, c'est la première chose. Maintenant, il faut savoir que le muguet qui a fleuri, la seule chose qu'il est en train de faire maintenant, c'est de récupérer de l'énergie pour faire sa floraison de l'année prochaine. Hein, théoriquement, elle devrait même déjà être presque finie. Hein. Donc, sachant que les plantes qui sont en train de, comment dirais-je, de descendre, de perdre leur sève au profit de la fleur qui est sous la terre, hein, la fleur elle est en train de se fabriquer sous la terre, et bien ces feuilles-là elles sont moches, et du coup comme elles sont moches, il y a tout un tas d'insectes qui viennent les manger, mais ça c'est pas grave, parce que de toute façon ces feuilles-là elles sont appelées à disparaître au mois d'octobre, même bien avant, il n'y en aura plus, c'est logique, hein, oui, mais que ce que je dis, même théoriquement, 14 juillet, les feuilles de muguet doivent être disparues complètement, hein. Donc ne vous inquiétez pas si les feuilles disparaissent, si elles sont mangées, c'est normal. La seule chose, c'est de bien garder le pot au frais pour que la racine, ce qu'on appelle la griffe du muguet, continue à bien végéter, à bien préparer les fleurs de l'année prochaine. Et vous verrez que dès le mois de mars l'année prochaine, ça redémarrera et que vous aurez des jolies fleurs.
Mais en attendant, et on m'a vendu aussi un produit normand pour tout tuer à 14,50. Ils mettent de insect choc, c'est bon, surtout pour les légumes. Et là, moi, j'en ai mis pour les charançons. Les charançons, on allait un par un, donc je les tuais en les écrasant. Et à chaque fois, maintenant, je vois plus un charançon sortir du pot, à part des bestioles blanches, mais ça me tracasse quand même. Parce que bon, l'autre jour, j'ai enlevé des mauvaises herbes qui poussaient en plus dedans. Et ce qui s'est passé, sans faire exprès, j'ai arraché un pied de muguet. Et qu'est-ce que je voyais? Plus de racines.
Alors c'est assez compliqué en fait comme situation.
Il y a peut-être un petit problème d'autoturinque. Les autoturinques, c'est des petits vers blancs qui bouffent activement les racines de toutes les plantes, même le muguet. C'est toxique pour nous, mais c'est pas du tout toxique pour les insectes. Donc ce que vous avez intérêt à faire, vous dépotez tranquillement là cet après-midi, pas au soleil. Hein, vous mettez au nord pour faire ça. Vous dépotez votre pot de muguet. Vous l'éclatez délicatement pour voir l'état des racines. Et si vous voyez dedans des petits vers blancs, vous les tuez tous systématiquement et du coup les racines que vous récupérez, vous les remettez en place dans le pot et je pense que vous allez régler le problème comme ça.
Voilà, c'est vrai que comme ça on analyse mieux ce qui se passe en regardant de plus près les racines. Merci Nathalie pour votre question, bonne journée à Fougères. On va se donner rendez-vous bien sûr dimanche prochain pour d'autres questions. Philippe, un petit mot pour la fin?
Bah écoutez, j'ai pas trouvé de manifestation jardin pour cette semaine. Alors il y en aura d'autres pour l'été, il y en a pas mal, mais pour cette semaine, j'ai rien trouvé. Donc je vais vous proposer un petit bouquin qui a été édité par l'association Agir pour l'environnement. On le trouve déjà si on est adhérent à cette association là, pourquoi pas, mais on le trouve un petit peu partout quand même. Ça s'appelle La Bio pour tous, c'est illustré par Red et c'est à la fois très drôle, mais quand on sait le sujet, à savoir la défense de l'environnement, on rigole un petit peu moins. Mmh. Et ça nous explique avec beaucoup d'astuces, beaucoup de sourires, mais aussi de temps en temps des petites opérations frayeurs, les dégâts irréversibles que nous sommes en train de faire sur l'environnement. Et faut pas oublier que la survie de l'environnement, c'est pas pour la beauté du geste, c'est juste la survie de l'homme dans son environnement qui est en jeu.
La bio pour tous, donc. Ouvrage que vous pouvez trouver chez votre libraire, oui.
Voilà, édité par le Passager Clandestin, c'est mignon comme une maison d'édition.
Oui, vous n'en êtes pas un passager clandestin, vous avez toute votre place sur France Bleu Armorique et rendez-vous dimanche prochain, Philippe.
Avec grand plaisir.
Au revoir. France Bleu Armorique, bon dimanche, il est 10h. 10h, on retrouve l'actualité avec Romain Roux.
En Ille-et-Vilaine, les parents d'élèves de Chanet-sur-Illet, au nord de Rennes, se mobilisent. Ils manifestaient hier pour réclamer une classe supplémentaire dans la seule école de cette commune rurale. L'année prochaine, il pourrait y avoir 160 élèves. Pour l'instant, il n'y a que 6 classes, déjà bien chargées, de la maternelle à la primaire. Stéphanie Lémé-Arlonnet est parent d'élèves élu au conseil de l'école.
Nous, parents, donc, on voit bien que l'équipe enseignante donc, est dans ses limites matériel. Les classes aussi ne sont pas extensibles. Hein. Donc, par exemple, les maîtresses ont dû enlever leur bureau pour pouvoir accueillir l'ensemble des tables des élèves. La solution, ce serait tout simplement d'ouvrir une seule classe hein, pour éviter donc ces sureffectifs. Après, nous, ce qu'on demande, c'est des conditions d'apprentissage qui soient optimales pour nos enfants, pour qu'ils puissent apprendre, puisque là, on est sur l'école élémentaire, on est sur l'acquisition du socle de base et les fameux fondamentaux. Donc, voilà, on est sur l'ensemble du programme de Monsieur Macron. Hein. Sauf qu'on n'est pas en ZEP, on n'est pas école prioritaire, on est tout simplement une petite école rurale à 6 classes, donc on sait qu'on n'est pas les seuls dans ce cas-là, mais on voudrait juste demander à l'inspection académique, qu'elle écoute notre demande pour nos enfants et pour leur apprentissage.
L'inspection académique qui dira en août si oui ou non elle accepte d'ouvrir une classe supplémentaire. Autre manifestation, cette fois à Rennes, 200 manifestants ont défilé hier dans les rues, ils réclamaient des solutions pour les 160 migrants de la Poterie. Dans 3 semaines, ils devront quitter l'ancienne maison de retraite qu'ils occupent depuis un an. Et pour l'instant,